Donc aujourd'hui, ce matin, le contexte de cette encyclique. Il n'y avait pas de pire moment pour publier l'encyclique que celui qui était retenu. Que c'était en juillet 68, et en tout cas dans les parties du monde qui avaient été concernées par les événements de France, mai 68, c'était vraiment pas une date très propice. Mais ce fut la date effective de la publication, 25 juillet 68. Alors je prends les premiers paragraphes, montre bien le contexte. Paragraphe 1, le très grave devoir de transmettre la vie humaine qui fait des époux les libres et responsables collaborateurs du Créateur. On parle d'ailleurs de procréation dont on crée avec un autre, à savoir Dieu. Ce très grave devoir a toujours été pour ceux-ci, pour les époux, source de grande joie, accompagné cependant parfois de bien des difficultés et des peines. La question de la parenté responsable de la procréation est le lieu de beaucoup de joie, mais aussi de beaucoup de difficultés et de peines. En tout temps, l'accomplissement de ce devoir a posé à la conscience des époux de sérieux problèmes, à savoir, est-ce qu'il est opportun d'avoir un enfant maintenant ? Où n'est-ce pas opportun? Comment va-t-on s'y prendre? Comment va-t-on être d'accord, les deux époux, sur la manière de gérer la situation? Mais l'évolution récente de la société a entraîné des mutations telles que de nouvelles questions se sont posées, questions que l'Église ne pouvait ignorer en un domaine qui touche de si près à la vie et au bonheur des hommes. Et il est vrai qu'une bonne partie du bonheur des personnes en cette vie dépend de la qualité de la vie conjugale et du rapport aux enfants nés ou à naître. Les changements, paragraphe 2, survenus sont effectivement notables et de plusieurs sortes. Il s'agit tout d'abord du rapide développement démographique. Beaucoup manifestent la crainte que la population mondiale n'augmente plus vite que les ressources à sa disposition. Encore aujourd'hui, il y a des opinions contrastées sur cette question. Encore des démographes qui agitent le spectre d'une surpopulation. D'autres, au contraire, qui laissent entendre que la population va se stabiliser bientôt, au cours de ce siècle, et que ce qui va menacer certains pays, ensuite, ce sera l'hiver démographique. Bon. Comme il s'agit de prévisions concernant l'avenir, il y a toujours, bien sûr, une dose d'incertitude. Et dans le problème de la surpopulation, il y a, comme je vous l'ai dit hier, il y a toujours deux paramètres. Il n'y a pas seulement la population, mais il y a les ressources disponibles. On peut affronter le problème dit de la surpopulation, ou bien en cherchant à faire diminuer la population, ou bien en augmentant les ressources disponibles, et ce, sans trop malmener la planète. Beaucoup manifestent la crainte que la population mondiale n'augmente plus vite que les ressources à sa disposition. Il s'ensuit une inquiétude croissante pour bien des familles et pour des peuples en voie de développement. Et grande est la tentation pour les autorités d'opposer à ce péril des mesures radicales. Par exemple, de grandes ONG ont déclenché des campagnes de stérilisation consenties ou pas consenties dans un pays comme le Brésil, jadis, pour éviter qu'il y ait une trop grande population, mais aussi une trop grande puissance de ces nations. Parce que, avec des, avec 200 ou 300 millions d'habitants, devient potentiellement un concurrent d'autres grandes puissances dans l'Amérique. Tout ça n'est pas innocent. Donc, inquiétude croissante pour bien des familles et pour des peuples en voie de développement, et grande est la tentation pour les autorités d'opposer à ce péril des mesures radicales. D'autant plus que ce sont les pays riches qui fournissent et qui vendent les moyens de ces opérations, par la contraception ou bien par les techniques de stérilisation. En outre, les conditions de travail et de logement, comme aussi les exigences accrues dans le domaine économique et dans celui de l'éducation, rendent souvent difficile aujourd'hui la tâche d'élever convenablement un grand nombre d'enfants. Et c'est vrai. Beaucoup de couples, y compris dans nos pays industrialisés, ne trouvent pas des logements adéquats pour avoir une famille nombreuse. Là où dans le passé on pouvait se permettre d'avoir 8 enfants, 9 enfants, aujourd'hui, dans les cages à poules dans lesquelles il faut parfois habiter, c'est impossible d'envisager une telle situation. D'autant plus qu'on a des exigences plus grandes en matière d'éducation. On veut que tous les enfants, et c'est très bien, soient éduqués. Jadis, on éduquait les garçons et les filles étaient laissés à l'abandon, d'où les efforts qu'il y a eu du côté de l'Église de promouvoir l'éducation des filles. Donc, étant donné qu'on a heureusement des exigences plus grandes pour l'éducation, et aussi pour la vie économique, on cherche un confort plus grand que dans le passé, ça rend le problème plus aigu. Et donc aujourd'hui, il est souvent plus difficile d'élever convenablement un grand nombre d'enfants. On assiste aussi à un changement tant dans la façon de considérer la personne de la femme et sa place dans la société que dans la valeur à attribuer à l'amour conjugal dans le mariage, comme aussi dans la manière d'apprécier la signification des actes conjugaux par rapport à cet amour. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées ici en peu de mots. Donc, la façon de considérer la personne de la femme. La femme s'est souvent sentie un peu victime du comportement du mari, imposant par un manque de tempérance, de maîtrise et de considération d'espacer les naissances. Donc beaucoup de femmes se sont senties comme obligées d'accueillir plus d'enfants qu'elles ne l'auraient souhaité. De même, sa place dans la société, beaucoup de femmes ont jugé que pour grandir en consistance, elle devait, elle aussi, avoir un travail professionnel. Il y aurait beaucoup à dire sur cela, parce que le travail professionnel est souvent vécu par pas mal de gens comme une contrainte. Et on est heureux d'arriver le samedi et le dimanche pour y échapper. Alors, il est vécu comme une contrainte, mais en même temps, il était vécu par beaucoup de femmes comme une libération, parce qu'elles cessaient d'être prisonnières des tâches domestiques et étaient en quelque sorte par là égales à l'homme sur le plan de la vie, l'insertion dans la vie sociale. Tout ça a joué dans les problématiques contemporaines. De même que la valeur à attribuer à l'amour conjugal dans le mariage. L'évolution du sens du mariage a évidemment une répercussion sur la manière de vivre l'amour conjugal dans le cadre du mariage. Jadis, le mariage avait aussi une forte connotation économique. Souvent, hommes et femmes travaillaient ensemble dans une ferme ou bien dans une petite entreprise. Et l'unité du couple même s'il était peut-être fluctuant sur le plan affectif, était consolidé, préservé, en raison des nécessités économiques et de travail. Parce que se séparer eût été la ruine de l'entreprise familiale, ou bien la perdition pour la ferme dont on s'occupait ensemble. Alors, dans un contexte où le poids de l'institution du mariage, poids qui a beaucoup d'intérêt, sur la vie conjugale, une fois que ce poids diminue, eh bien, l'amour conjugal prend une autre coloration. De même, la manière d'apprécier la signification des actes conjugaux par rapport à cet amour. On parlait jadis, j'ai encore entendu ce langage-là, du devoir conjugal. Oui, je pense qu'on raisonne moins dans ces termes-là aujourd'hui. L'amour a une dimension plus privée, plus strictement personnelle, individuelle, affective, et moins comme l'accompagnement du mariage avec toutes les connotations économiques et sociales de ce dernier. Enfin et surtout, l'homme a accompli d'étonnants progrès dans la maîtrise et l'organisation rationnelle des forces de la nature, au point qu'il tend à étendre cette maîtrise à son être lui-même, pris dans son ensemble, au corps, à la vie physique, à la vie sociale et jusqu'aux lois qui règlent la transmission de la vie. Il y a de fait une plus grande mainmise aujourd'hui, depuis un siècle ou deux, beaucoup plus grande mainmise de l'homme sur la nature environnante, avec des aspects positifs et des aspects négatifs que cela entraîne. Toute notre problématique écologique vient de ce que nous avons un très très grand pouvoir sur les données naturelles de l'environnement. Dans le passé, on n'avait pas cela. C'est un progrès de l'avoir, mais c'est aussi un risque. Et cette maîtrise de la nature s'étend jusqu'au corps humain lui-même. Et c'est très positif à beaucoup d'égards, tous les progrès de la médecine qui nous permettent d'échapper à nombre de maladies, de les soigner mieux, etc., de prolonger la vie humaine de manière acceptable, etc. Mais cela s'étend aussi jusqu'aux lois qui règlent la transmission de la vie. Nous avons maintenant, 50 ans plus tard, une maîtrise qui était sans doute insoupçonnée encore à l'époque de l'encyclique sur les mécanismes les plus secrets, les plus intimes et les plus infinitésimaux de la procréation, puisqu'on est capable maintenant de manipulation génétique, on est capable de vous modifier un gène qui pourrait être responsable de tel ou tel problème de santé à l'avenir. Donc c'est une mainmise qui va très très loin. Et on est déjà en train de penser qu'on aura, au cours de ce siècle, des utérus artificiels dispensant la femme de porter un enfant. Bon, ça peut aller très très loin, et cela va déjà très très loin. On peut conserver dans un congélateur des embryons pour pouvoir être père et mère dans 20 ans, dans 30 ans, vous êtes au courant de tout ça. Et l'encyclique soupçonnait que cela allait gagner du terrain. Cette emprise a beaucoup d'égards positifs, mais aussi périlleuses sur la nature physique et sur le corps humain lui-même. Paragraphe 3, un tel état de choses fait naître de nouvelles questions. Étant donné les conditions de la vie moderne, étant donné la signification des relations conjugales pour l'harmonie entre les époux et pour leur fidélité mutuelle, n'y aurait-il pas lieu de réviser les règles morales jusqu'ici en vigueur, surtout si l'on considère qu'elles ne peuvent être observées sans des sacrifices parfois héroïques. Donc l'encyclique se pose très lucidement et très, sincèrement et ouvertement la question, n'y aurait-il pas lieu, étant donné toutes ces conditions nouvelles qui entourent le mariage et la vie conjugale et la procréation, n'y aurait-il pas lieu de revoir, de réviser les règles morales jusqu'ici en vigueur? Surtout si l'on considère qu'elles ne peuvent être observées sans des sacrifices parfois héroïques. Petite réflexion personnelle, mais quand j'étais adolescent, je travaillais dans le salon de notre petite maison familiale où on ne prenait jamais les repas. On prenait toujours les repas dans la cuisine même, avec une arrière-cuisine pour la cuisson. Et donc c'est là que je travaillais. Et parfois j'entendais ma mère parler avec des personnes amies qui la visitaient. Et je me souviens avoir entendu, quand j'étais adolescent, elle expliquait comment, après son troisième fils, dont l'accouchement avait été particulièrement douloureux, très difficile, on lui avait dit il faudrait ne plus avoir d'enfants, parce que la prochaine fois, ça risque d'être votre arrêt de mort. Alors, et je l'entendais expliquer que il pratiquait une méthode, la première fois que j'entendais parler de Ogino, et que c'était parfois, le risque était que ce soit approximatif, et que donc, elle faisait chambre à part avec mon père. Je crois même avoir entendu qu'il allait parfois dormir dans le grenier. Bon. Et que c'était pas facile dans la vie de couple de devoir assumer cela. Bon, ça m'a frappé parce que donc j'ai appris comme ça que, en principe, j'aurais pas dû naître. Oui. Et de fait, ma mère m'a raconté plus tard que mon accouchement avait été terrible. Je pesais 5,2 kg à la naissance. Elle a été déchirée, il a fallu recoudre, et 6 jours après, elle était sur les routes pour quitter la Belgique, aller en France pour se réfugier, comme l'ont fait tant de Belges en 1940. Donc, c'est là que j'ai compris pour la première fois, adolescent, tiens, c'est exigeant si on veut respecter les règles morales en vigueur. Étendant en ce domaine l'application du principe dit de totalité, ne pourrait-on admettre que l'intention d'une fécondité moins abondante mais plus rationalisée transforme l'intervention matériellement stérilisante en un licite et sage contrôle de naissance? Bon, c'est un langage un petit peu hermétique. Le principe de totalité consiste à dire, en morale, ce qui importe ne sont pas des actes singuliers pris un à un, mais c'est la totalité, c'est la globalité de l'agi. Donc, est-ce qu'il ne suffirait pas d'être globalement dans la vie conjugale ouvert à la fécondité, mais pas que nécessairement toute rencontre conjugale soit, en principe, ouverte à la transmission de l'agi? C'est une manière de raisonner qui a eu un certain crédit, qu'on n'appliquerait pas dans tous les domaines. Jamais un État ne consentira à ce qu'on ait une disposition générale à payer ses impôts, mais que quand même ça ne s'impose pas pour chaque déclaration fiscale de chaque année. Mais que, globalement, on a une intention de participer à la vie économique du pays, mais pas dans... Oui. Donc, c'est un argument qui avait une pertinence, et donc qui était évoqué, qui est pris en considération. Étendant ce domaine de la vie conjugale, l'application du principe dit de totalité, ne pourrait-on admettre que l'intention d'une fécondité moins abondante, mais plus rationalisée, transforme l'intervention qui stérilise, qui empêche d'avoir un enfant, intervention matériellement stérilisante, en un licite et sage contrôle des naissances. Ne pourrait-on admettre, en d'autres termes, que la finalité de procréation concerne l'ensemble de la vie conjugale plutôt que chacun de ses actes? On demande encore, autre idée qui court, qui est dans l'air et dont l'encyclique tient compte, on demande encore si, étant donné le sens accru de responsabilité de l'homme moderne, le moment n'est pas venu pour lui de confier à sa raison et à sa volonté, plutôt qu'au rythme biologique de son organisme, le soin de régler la natalité. De fait, avant qu'on ne connaisse des méthodes contraceptives efficaces, on peut dire que la venue au monde d'un enfant dépendait surtout des rythmes biologiques. Est-ce qu'on avait des relations pendant la période féconde ou pendant la période qui ne l'est pas, plus que à la volonté et à la raison. Eh bien, on demande si, étant donné le sens accru de responsabilité de l'homme moderne, le moment n'est pas venu pour lui de confier à sa raison et à sa volonté, par l'usage de méthodes contraceptives, plutôt qu'au rythme biologique de son organisme, le soin de régler la natalité. Plus tard, quand nous serons dans le cœur du sujet, je ferai remarquer que l'usage des contraceptifs hormonaux, oui, est une expression de la raison et de la volonté, encore que on se décharge de l'intervention de la raison et de la volonté en confiant la gestion de la fécondité à un produit que l'on consomme. Tandis que dans les méthodes dites naturelles, mais j'aime pas ce terme, dans les méthodes dites naturelles, là, pour le coup, la raison et la volonté jouent un rôle. On ne se décharge pas sur du latex ou sur des produits hormonaux de la charge de guider par la raison et la volonté la natalité. Mais j'y reviendrai plus longuement après. Paragraphe 4. De telles questions exigeaient du magistère de l'Église une réflexion nouvelle et approfondie sur les principes de la doctrine morale du mariage, doctrine fondée sur la loi naturelle, éclairée et enrichie par la révélation divine. Donc ici, il y a un gros mot qui est lâché, la loi naturelle. C'est le lieu de disputes interminables. J'y reviendrai de manière explicite pendant toute une causerie, parce que c'est très important si on veut comprendre intellectuellement les enjeux de humanité. Je dis seulement ici, à titre d'anticipation, que quand on parle de nature et de loi naturelle en morale, il ne s'agit pas de la nature physique ou purement biologique, mais de ce qui est l'essence de l'homme, ce que l'homme est essentiellement. Il ne s'agit pas d'abord de biologie, il s'agit de la nature globale de l'être humain, qui comprend bien sûr aussi la nature au sens étroit, parce que nous avons un corps. Nous faisons partie de l'univers physique, mais qui inclut aussi la liberté, la raison, la culture, l'histoire, etc., fait partie de la nature humaine au sens large. Et c'est toujours dans ce sens large que l'Église parle quand elle emploie l'expression « loi naturelle ». Déjà, saint Thomas d'Aquin était très clair sur cette question. Mais j'y reviendrai tout au long d'une causerie demain ou après-demain. Aucun fidèle ne voudra nier qu'il appartient au magistère de l'Église, dont on appelle magistère la fonction d'enseignement qu'a l'Église du mot magistère en allemand, qui signifie en latin, qui signifie un maître. Maître vient de magister, celui qui enseigne. Et la fonction d'enseignement de l'Église s'appelle le magistère de l'Église. Aucun fidèle ne voudra nier qu'il appartient au magistère de l'Église d'interpréter aussi la loi morale naturelle. Donc, le magistère est non seulement habilité à interpréter l'Écriture sainte, à interpréter la tradition qui nous vient des apôtres, mais aussi à interpréter le sens profond de notre nature humaine, la destination de notre nature humaine. Il est incontestable, en effet, comme l'ont plusieurs fois déclaré nos prédécesseurs, c'est une allusion à Pie IX, à Pie X, à Pie XI et à Pie XII, il est incontestable, en effet, comme l'ont plusieurs fois déclaré nos prédécesseurs, que Jésus-Christ, en communiquant à Pierre et aux apôtres sa divine autorité, et en les envoyant enseigner ses commandements à toutes les nations, Matthieu 28, le dernier verset, les constituait gardiens et interprètes authentiques de toute la loi morale. Non seulement de la loi évangélique, mais encore de la loi naturelle. Effectivement, la guidance morale de l'Église serait déficiente si elle n'était habilitée à interpréter que la loi de Moïse, ou les béatitudes dans l'évangile de Matthieu, ou les passages des lettres de Paul qui enseignent la morale, qu'on appelle les passages parénétiques du mot grec qui signifie conseiller, orienter, et pas le sens profond d'une nature humaine prise globalement, indépendamment de la révélation mosaïque ou bien de la révélation évangélique. La mission de l'Église serait tronquée si elle ne pouvait pas interpréter aussi le sens de ce que appelait saint Thomas d'Aquin les inclinations fondamentales de la nature humaine. Il y a pour saint Thomas d'Aquin, et c'est très bien vu, trois inclinations fondamentales qui font partie de notre nature humaine, à savoir préserver sa vie, se maintenir en vie. Spontanément, nous cherchons, si nous sommes malades, à guérir. Et si nous sommes menacés, à nous protéger. La tendance à rester en vie. L'inclination à la vie affective et la vie sexuelle et la procréation d'enfants, inclination inscrite dans les tréfonds de notre nature humaine, et troisième inclination, celle de vivre en société, et une société gouvernée par la raison, régie par des lois. Ce sont des inclinations, mais qui ne deviennent vraiment morales, qui ne donnent lieu à des préceptes moraux que lorsqu'elles sont mises en œuvre par la raison humaine. Capital pour Thomas d'Aquin. C'est la raison humaine qui doit promulguer une loi, qu'on appelle la loi naturelle, qui va orienter ces trois inclinations vers leur juste fin. Je donne un simple exemple. L'inclination naturelle qui nous habite de conserver notre vie, elle est positive. Elle est déjà un bien authentiquement humain. Mais, dans la vie morale, ce devra être orienté vers sa juste fin par la raison. Et par exemple, il y a des circonstances où on va exposer sa vie, et ce sera moral de le faire. Il arrive à une maman de mettre en péril sa santé par le soin qu'elle prend d'un enfant malade et qu'elle va veiller, qu'elle va accompagner d'une manière qui va l'user. Eh bien, c'est son devoir moral est de ne pas simplement chercher sa propre santé, son propre bien-être, non. Il y a des circonstances où la raison nous commande de mettre notre vie en péril Par exemple, pour préserver quelqu'un d'une attaque, ou pour nous préserver nous-mêmes, on risque parfois sa vie, ou bien pour le bien de la patrie, de risquer sa vie, etc. Ou bien de les martyrs n'ont jamais raisonné en disant une des inclinations fondamentales de la nature humaine est de préserver sa vie, donc je dois préserver ma vie, donc je renie le Christ pour pouvoir préserver ma vie. Non, ils ont préféré mourir, ce qui est contraire à l'inclination naturelle de la nature humaine, au nom d'une exigence plus grande. Voilà. Quelques mots pour éclairer cette question de la nature humaine. Que l'Église doit pouvoir interpréter pour que son magistère soit pertinent, y compris les inclinations fondamentales qui nous habitent. Elle doit donc pouvoir interpréter aussi la loi naturelle, expression elle aussi de la volonté du Créateur, de la volonté de Dieu, et de l'observation fidèle est également nécessaire au salut. Conformément à cette mission qui est la sienne, l'Église a toujours donné, et avec plus d'ampleur à l'époque récente, un enseignement cohérent tant sur la nature du mariage que sur le juste usage des droits conjugaux et sur les devoirs des époux. C'est une allusion à tous les documents d'Église qui ont, dans un passé relativement récent, parlé du mariage, de la vie conjugale, des droits et des devoirs des époux. Le catéchisme du Concile de Trente, les encycliques de Léon XIII, de Pie XI, de Pie XII, les discours de Pie XII. Pie XII a touché beaucoup de ces questions dans différentes rencontres où il prenait la parole. 5. La conscience de cette même mission nous amena à confirmer et à élargir la commission d'études que notre prédécesseur Jean XXIII, de vénérée mémoire, avait instituée en mars 1963. Donc en mars 1963, quelques mois avant sa mort, il est mort le 2 ou 3 juin 1963, Jean XXIII, pendant le Concile. Comme certains pères du Concile avaient demandé que le Concile examine la question de la morale conjugale et notamment la question de la régulation des naissances et de la contraception dont on commençait à parler à l'époque, Jean XXIII avait institué une commission pour étudier ces questions, et Paul VI, après la mort de Jean XXIII, donc quand il est devenu pape et a dû assurer la poursuite du Concile Vatican II, Paul VI a confirmé mais aussi élargi la commission. Cette commission qui comprenait, outre plusieurs spécialistes de différentes disciplines concernées, donc il y avait bien sûr des théologiens, des philosophes, mais aussi des sociologues, il y avait des médecins, il y avait des spécialistes de la reproduction humaine. Toutes les disciplines concernées par ces problématiques étaient représentées dans cette commission, qui comprenait, outre plusieurs spécialistes des différentes disciplines concernées, également des couples. Elle avait pour but de recueillir des avis sur les nouvelles questions relatives à la vie conjugale, et en particulier celle de la régulation de la natalité, et de fournir d'opportuns éléments d'information pour que le magistère pût donner à l'attente non seulement des fidèles, mais de l'opinion publique mondiale, une réponse adéquate. Donc c'était une autre responsabilité. Il y avait non seulement des évêques, mais aussi beaucoup de fidèles qui réclamaient des éclaircissements sur ces questions, mais également l'opinion mondiale était très avide de connaître l'avis de l'Église catholique sur ces questions. Les travaux de ces experts, complétés par les jugements et conseils que nous fournir, soit spontanément, soit sur demande expresse, bon nombre de nos frères dans l'épiscopat, donc pas mal d'évêques ont écrit au pape en lui demandant, il faudrait s'exprimer sur ces questions, nous ont permis de mieux mesurer tous les aspects de cette question complexe. Aussi exprimons-nous à tous de grand cœur notre vive gratitude. Mais, paragraphe 6, il y a un mais. En effet, la commission en question, élargie, a fourni un avis qui était globalement, avec une certaine majorité, mais pas une majorité écrasante, mais quand même une majorité favorable à une ouverture de l'Église au recours à la contraception. Mais dans la minorité, il y avait un certain Karol Wojtyła, archevêque de Cracovie, futur Jean-Paul II, et qui avait beaucoup travaillé cette question. De fait, pendant toute sa vie de prêtre, il était très proche des couples. Il a beaucoup travaillé des questions concernant l'amour humain, le mariage. Donc il s'était vraiment spécialisé là-dedans. Et il s'y était spécialisé à l'aide d'une philosophie assez nouvelle pour l'époque, qui était fondamentalement d'inspiration thomiste, saint Thomas d'Aquin, mais aussi inspirée, ce qui était quand même rare à l'époque, inspirée par de nouvelles philosophies surgies à l'époque même, spécialement la phénoménologie, fondée par un juif, mais de langue allemande, et allemand, Edmund Husserl, qui a fondé une nouvelle approche philosophique, Max Scheler, que Jean-Paul II, enfin que Karol Wojtyła avait étudié de très près, il avait fait une thèse philosophique sur Max Scheler, donc il avait, auprès de ses auteurs, apporté à la doctrine de saint Thomas d'Aquin des compléments appréciables liés à une approche plus moderne, plus anthropologique, plus subjective des questions morales. Donc il était très averti de ces questions. Il avait publié plusieurs ouvrages déjà sur ces questions-là, plusieurs dont une grosse brique qui n'est pas facile à lire, qui s'appelle « Personne et acte ». Osoba et Chin. Il a donné, plus tard, Jean-Paul II, accordé des interviews à un journaliste français, André Frossard, qui ne manquait pas d'humour, si vous avez encore connu André Frossard. Et donc, André Frossard a publié un livre, dont j'ai oublié le titre, mais qui est des dialogues avec Jean-Paul II. Et il avait de l'humour, André Frossard, et il dit qu'il avait entendu dire que, en Pologne, quand venaient se confesser de grands pécheurs qui étaient aussi des intellectuels, on leur prescrivait comme pénitence la lecture de Osoba et Chin, de Personne et Acte. Et que, ajoutait Frossard, plusieurs de ces grands pécheurs préféraient s'abandonner à la miséricorde divine plutôt que de se taper la lecture du pape. Bon. Donc il était très versé dans ces questions et ça a impressionné Paul VI et c'était un élément dans sa réflexion. Et la conclusion de ça a été qu'il a suivi finalement, après aussi une étude personnelle, il a suivi plutôt l'avis de la minorité de cette commission. Je lis maintenant le paragraphe 6. Les conclusions auxquelles était parvenue la commission ne pouvaient toutefois être considérées par nous comme définitives, ni nous dispenser d'examiner personnellement ce grave problème. Entre autres, parce que le plein accord n'avait pas été réalisé au sein de la commission sur les règles morales à proposer. Et surtout, parce qu'étaient apparus certains critères de solution qui s'écartaient de la doctrine morale sur le mariage proposée avec une constante fermeté par le magistère de l'Église. Et effectivement, il y avait dans les propositions de la minorité, il y avait des perspectives morales qui étaient en grand contraste avec l'enseignement de l'Église depuis des siècles en cette matière. Et c'est pourquoi, ayant attentivement examiné la documentation qui nous a été soumise, après de mûres réflexions et des prières assidues, c'était un moment très éprouvant pour Paul VI. On a écrit une biographie de Paul VI récemment qui révèle cela, comment il a été torturé pendant des mois en se demandant que dois-je faire, dois-je suivre la vie de cette majoritaire de cette commission, mais avec des raisonnements qui tranchent sur l'enseignement durable de l'Église dans cette matière, doivent suivre plutôt l'avis de la minorité, mais notamment du cardinal Karol Wojtyła. Et donc, il avait d'ailleurs un tempérament un peu tourmenté, Paul VI, alors il est particulièrement éprouvé par cette situation. Et il est vrai, on l'a rappelé dans sa biographie, qu'il a pris beaucoup de temps de réfléchir et de prier avant de prendre une décision dont il savait qu'elle allait être, pour beaucoup, impopulaire. C'est pourquoi, ayant attentivement examiné la documentation qui nous a été soumise, après de mûres réflexions et de prières assidues, nous allons maintenant, en vertu du mandat que le Christ nous a confié, donner notre réponse à ces graves questions. Alors je termine en parlant un petit peu des réactions qui sont produites, enfin celles que j'ai pu connaître. Donc j'ai d'abord insisté sur le moment, en tout cas dans nos pays d'Europe occidentale, un très mauvais moment. Juillet 1968. À l'époque où il y avait les slogans « Il est interdit d'interdire », enfin, toute l'imagination au pouvoir, évidemment, ce n'est pas du tout consonant. On n'allait pas du tout dans ce sens-là. Et le rejet a été quand même assez généralisé, exprimé franchement, ou de manière modérée, feutrée, mais rejet de pas mal de couples et de pastorales familiales et d'associations concernant la vie conjugale. Il y a pas mal de gens qui ont quitté l'Église à cause de cela, assez mal informés sur les enjeux profonds de l'encyclique. Et les conférences épiscopales, malgré l'appel que nous lirons le dernier jour, l'appel qui leur était adressé au paragraphe 30, ont, en tout cas dans nos pays, réagi de manière extrêmement réservée et même poliment en désaccord avec eux. Je pense à la conférence épiscopale belge de mon pays. Tout le monde est mort, donc je peux. Il n'y en a plus aucun qui vit maintenant. Mais il y a un seul évêque et qui n'a pas voulu signer la déclaration, l'évêque de Gand à l'époque. Mais tous les autres ont dit tout leur respect pour le magistère de l'Église, mais en disant si un chrétien bien formé, dûment informé, ayant réfléchi à ces questions, pense en conscience devoir prendre une position différente de l'encyclique, il en a la liberté. Donc, c'était un peu une prime accordée d'abord aux gens très bien formés qui ont étudié la question de près, ce qui n'est pas très démocratique, je trouve, comme orientation pastorale, mais c'était aussi une manière polie, gentille, un peu aseptisée, de dire « mettez l'encyclique dans un rayon de votre bibliothèque et n'en parlons plus ». C'était un enterrement, pas première classe, mais quand même un enterrement de l'encyclique. Je vous fais aussi une petite confidence personnelle. Personnellement, moi j'étais à ce moment-là, donc j'avais 28 ans. Je venais de défendre mon doctorat en philosophie à l'Université catholique de Louvain. Et avec la culture philosophique que j'avais à l'époque, moi j'étais acquis à l'idée que l'homme n'est pas seulement un être de nature, il est un être de culture. Et donc, c'est normal que la culture étant artificielle, la culture est un dépassement de la nature brute. Toute la culture humaine consiste à transgresser l'ordre purement biologique. Nous ne mangeons pas comme des animaux, nous mangeons de manière cultivée. Donc toute la culture étant un dépassement de la nature, invoquer des... comme j'avais entendu que le pape le disait, je n'avais pas encore lu l'encyclique, ça me paraissait absolument à côté de la plaque. Et donc, ma position personnelle était arrêtée, mais cette encyclique se trompe. N'empêche que j'ai voulu la lire, ce que je pense... tout le monde n'a pas fait, même dans le monde intellectuel, je pense que tous n'ont pas lu vraiment l'encyclique. Je l'ai lu, à la fin de juillet ou bien au début du mois d'août. Il faisait très chaud, je logeais dans une petite mansarde aménagée dans la maison de ma mère, où, j'étais encore étudiant, je revenais parfois en vacances à la maison de ma mère. Il faisait très chaud. Et j'ai lu cela, et j'ai été très touché quand j'ai lu, mais nous le lirons le dernier jour, le paragraphe 28. J'ai lu cette encyclique avec un maximum de mauvaise foi, décidé à contribuer à la faire tomber, à la discréditer. Mais j'ai lu ceci au paragraphe 28. Cher fils prêtre, qui est par vocation les conseillers et les guides spirituels des personnes et des foyers, nous tournons maintenant vers vous avec confiance. Votre première tâche, spécialement pour ceux qui enseignent la théologie morale, est d'exposer sans ambiguïté l'enseignement de l'Église sur le mariage. Soyez les premiers à donner dans l'exercice de votre ministère l'exemple d'un assentiment loyal, interne et externe, au magistère de l'Église. Cet assentiment est dû, vous le savez, non pas tant à cause des motifs allégués, que plutôt en raison de la lumière de l'Esprit Saint dont les pasteurs de l'Église bénéficient à un titre particulier pour exposer la vérité. Vous savez aussi qu'il est de souveraine importance pour la paix des consciences et pour l'unité du peuple chrétien que dans le domaine de la morale comme dans celui du dogme, tous s'en tiennent au magistère de l'Église et parlent un même langage. Aussi est de toute notre âme que nous vous renouvelons l'appel angoissé du grand apôtre Paul, citation de 1 Corinthiens 1:10, « Je vous en conjurerai par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même sentiment, qu'il n'y ait point parmi vous de division, mais soyez tous unis dans le même esprit et dans la même pensée. » Mais je dis que j'ai craqué, comme encore maintenant, en lisant cela. Et c'était une étape importante de ma vie. Je me suis dit, et je le fais encore aujourd'hui, Je vais maintenant mettre, je vais étudier le texte, je vais lire des auteurs de philosophie, théologie morale, qui n'étaient pas encore ma spécialité à cette époque-là, loin de là. Je vais m'informer et je vais mettre ma culture philosophique et théologique au service d'une compréhension de cette encyclique. Et j'étais heureux que le pape dise lui-même que peut-être les arguments qu'il avait développés n'étaient pas parfaits. Non pas tant à cause des motifs allégués que plutôt en raison de la lumière de l'Esprit Saint dont les pasteurs de l'Église bénéficient à un titre particulier. Donc c'était un moment important de ma vie. Je me suis mis à travailler et je me souviens que le tout premier article que j'ai publié en 69 dans une revue d'étudiants à l'université était un article sur l'interprétation de Humanevite, une interprétation favorable de Humanevite. Et alors, en avançant, alors j'ai eu mon attention attirée sur le fait que la plus grande partie de la théologie morale qui s'est développée dans le monde catholique à partir des années 70 a été conçue dans le but explicite de se débarrasser de Humanevite. Et donc ça m'a motivé davantage. Et c'est une réflexion sur tout cela qui a été proposée par Jean-Paul II dans l'encyclique Veritatis Splendor, qui est l'encyclique la plus difficile à lire qu'on ait jamais produite. Une aspirine à chaque page, parce que le pape suppose la connaissance précise de tous les systèmes de théologie morale qui ont apparu depuis les années 70 jusqu'à l'époque de la publication en 1993 de cette encyclique, 93 environ. Alors, j'ai suivi ces courants, j'ai lu sur ces courants, et de fait, je me suis rendu compte, effectivement, et ça c'est quand même un phénomène impressionnant, tout un pan entier de la théologie morale contemporaine de 70 jusqu'à 2000, et encore de nos jours, a été conçu pour trouver des astuces philosophiques pour se débarrasser de Humanevite. Alors j'y ferai allusion quand nous serons dans le vif du sujet. Mais cet encyclique Veritatis Splendor est vraiment un trésor, mais un trésor difficilement accessible. C'est pourquoi j'ai publié un petit ouvrage. C'est ma manie, de consacrer mes vacances à écrire des livres. J'ai écrit un petit ouvrage qui épuisé, mais qui va bientôt reparaître sous une autre forme, qui s'appelait La morale en question, au pluriel, que j'avais publié aux éditions de l'Emmanuel, mais c'est épuisé, ou sous la forme d'une interview fictive, où j'imagine que je suis interrogé par un journaliste radicalement hostile à l'encyclique Veritatis Splendor. Et je réponds à ces questions. Alors, ça m'a permis de traiter le sujet avec humour, de manière agréable, de manière sous la forme d'une conversation, tout en touchant tous les points essentiels. Et ça va reparaître dans une collection qui va être publiée aux presses de la Renaissance, je pense, en France, mais c'était conçu par des personnes en Belgique qui vont donner une présentation de tous les textes du magistère de Jean-Paul II. Et moi, j'ai pris en charge la présentation de l'encyclique Veritatis Splendor, comme j'avais un matériau déjà à disposition. Mais vous en verrez plus l'enjeu quand je serai arrivé dans les questions philosophiques, pour une part, qui sont vraiment au cœur de l'enjeu de Humanevite. Bien. Cet après-midi, donc, ce sera l'essentiel du problème tel qu'il est posé par l'encyclique elle-même.